Bonjour à toutes et à tous, je suis Camille Vinit et vous écoutez l'épisode 6 de Vigilance, le podcast d'actualité sur l'ESG de Lefèvre Dalloz. Pour nous accompagner aujourd'hui, Laura Guégan, Sophie Bridier et Joséphine Bonardo, journalistes au sein de la rédaction. Elles reviennent pour nous ce mois-ci sur la fast fashion, cette mode rapide en plein essor, le rapport entre travail des enfants et changement climatique, et la mise en œuvre de la CSRD au travers des ESRS. On commence avec toi, Laura. Tu souhaitais nous parler de la fast fashion et de ses impacts. Mais d'abord, comprenons-nous bien. Fast fashion, ultra fast fashion, de quoi s'agit-il ?
La fast fashion correspond au fonctionnement de marques qui produisent des vêtements très vite, très souvent et à très bas coût. Certaines enseignes sortent jusqu'à 52 collections par an, contre seulement 4 pour des marques de mode classique. En 14 ans, la production mondiale de vêtements a doublé, tandis que la durée de vie des vêtements a été réduite d'un tiers. Alors qu'on parle de fast fashion depuis le début du XXIe siècle, des marques d'ultra fast fashion sont apparues dans les années 2010. Elles se caractérisent par un renouvellement incessant de la mode, avec la mise sur le marché de plusieurs milliers de nouveaux modèles chaque jour.
Et quels sont les impacts environnementaux de cette industrie textile très particulière ?
À titre d'exemple, au niveau mondial, l'industrie textile est responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre et de 20% de la pollution des eaux du fait des traitements des textiles d'habillement. N'oublions pas non plus les impacts sociaux. La production de fast fashion se fait en grande partie dans des pays où les minima sociaux recommandés par l'Organisation internationale du travail ne sont pas respectés, avec notamment l'absence de contrat, des durées de travail abusives, des salaires de misère, des bâtiments insalubres ou encore du travail forcé.
A-t-on une idée des quantités de déchets générés ?
Oui. L'Agence européenne de l'environnement a récemment publié une note d'information sur la destruction des textiles retournés et invendus dans l'économie circulaire européenne. Entre 4 et 9% de tous les produits textiles mis sur le marché européen sont détruits par les marques de fast fashion sans jamais être utilisés pour l'usage auquel ils étaient destinés. Ceci s'explique car un vêtement vendu en ligne sur 5 serait retourné. Et parmi ceux-ci, entre 22 et 43% finiraient par être détruits. Les textiles invendus représentent, quant à eux, 21% de la part totale des vêtements produits. Là aussi, un cinquième finit par être détruit. Au total, le traitement et la destruction de tous ces textiles retournés ou invendus sont considérés comme responsables de 5,6 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre chaque année, soit les émissions nettes d'un pays comme la Suède.
Face à ça, que propose l'Agence européenne de l'environnement ?
Elle suggère de mettre en place une réglementation et des politiques ciblées, ainsi que des mesures d'information non contraignantes pour réduire les retours des clients et les invendus. De façon plus globale, l'agence recommande de s'attaquer aux problèmes systémiques de la surproduction et de la destruction dans l'industrie textile, ce qui pourrait être fait grâce à des modèles d'entreprise et de politiques circulaires. Un accord de l'Union européenne a dernièrement été adopté afin d'interdire la destruction des vêtements, accessoires vestimentaires et chaussures invendus.
Et en France, la classe politique s'est-elle emparée du sujet ?
Deux propositions de loi ont récemment été déposées. Une première vise à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile et la seconde à démoder la mode éphémère grâce à un système de bonus-malus. Celui-ci doit favoriser la mode durable grâce au bonus et rendre la fast fashion plus chère qu'elle ne l'est aujourd'hui avec le malus. La publicité pour les entreprises de fast fashion devrait également être interdite et l'information du consommateur renforcée. Enfin, le gouvernement souhaite porter une proposition de coalition internationale pour interdire les exportations de déchets textiles vers les pays qui n'ont pas la capacité de les gérer durablement dans le cadre de la Convention de Bâle.
Des pratiques dans le viseur des parlementaires, donc. Merci Laura. Sophie, tu veux nous parler d'une étude de l'Organisation mondiale du travail qui fait le lien entre travail des enfants et changement climatique.
Oui Camille, le changement climatique a une incidence profonde sur le travail des enfants, mesure cette étude, présentée lors de la COP28 à Dubaï. Elle s'appuie sur une centaine d'articles issus de revues scientifiques et de rapports d'ONG ou de think tanks. Et l'OIT sonne l'alerte. Les impacts du changement climatique grandissant et s'intensifiant, il risque d'être difficile de parvenir à réduire le nombre d'enfants travaillant dans le monde et donc de réaliser l'un des objectifs de développement durable qui fixe la fin de toute forme de travail des enfants à 2025.
Quel est le rapport entre changement climatique et travail des enfants ?
C'est malheureusement assez simple. Le changement climatique produit des dommages qui affectent considérablement les moyens de subsistance et les conditions de vie d'une partie des habitants de la planète. Cela renforce donc la pauvreté et dégrade encore davantage les conditions de vie des plus pauvres et des plus vulnérables, donc des femmes et des enfants. Ces mauvaises conditions incitent alors les ménages à recourir davantage au travail des enfants. C'est particulièrement vrai dans le domaine de l'agriculture. Il comptabiliserait 112 millions d'enfants, représentant plus des deux tiers des enfants travaillant sur la planète. Ce secteur est aussi le plus affecté par le changement climatique.
Peux-tu nous donner un exemple ?
Oui Camille, l'étude évoque le cas de précipitations supérieures à la moyenne au Vietnam, un des marqueurs du changement climatique actuel. Eh bien, mécaniquement, cela se traduit par un nombre plus important d'enfants travaillant dans le domaine de l'agriculture. La chaîne de valeur du coltan, un minerai qui permet de fabriquer une série d'appareils électroniques, ou encore celle du coton, sont particulièrement marquées par les dommages climatiques, ceux sur les écosystèmes et le travail des enfants.
Alors, comment peuvent agir les entreprises ?
Eh bien, il faut veiller à aligner ces processus de due diligence sur les questions environnementales et celles sur les droits de l'homme et des enfants. Il faut les appréhender ensemble, rappelle l'OIT. L'une ne va pas sans l'autre. L'étude rappelle aussi l'existence de la méthodologie CCLR pour Carbon and Child Labor Rucksack. Elle peut être utile aux entreprises qui cherchent à mesurer le rapport entre travail des enfants et émissions de CO2 de produits qu'elles importent au sein de leur chaîne de valeur. Un diagramme résume cette méthode que nous reproduisons dans la présentation de notre podcast. Pour un produit importé, il faut tout d'abord compiler des données concernant le travail des enfants et les émissions de carbone. Attention à la qualité des data utilisées. Une fois combinées, on va mettre en perspective les chiffres avec la part de la production totale du produit qui est importée par l'entreprise dans un pays donné. Ces chiffres finaux attribuent alors une part de responsabilité à la société dans le travail des enfants et les émissions de CO2.
Des moyens existent donc, merci Sophie. Place à la durabilité avec Joséphine. Le mois dernier, tu nous as présenté les premières réponses données par les FRAG sur cette plateforme d'aide à la mise en œuvre des standards ESRS. Depuis, un deuxième volet de réponses a été publié.
Absolument. Vous vous rappelez, les FRAG a lancé il y a quelques mois une plateforme visant à recueillir et à répondre à des questions techniques sur les standards européens de reporting. En février, les FRAG avaient déjà publié une première série d'explications dont nous avons donné quelques exemples dans notre précédent épisode. Et il y a quelques jours, les FRAG a donné 12 nouvelles réponses qui se révèlent encore très intéressantes.
Pour l'une d'entre elles, il s'agit de savoir si une question de durabilité peut être matérielle, si l'impact de l'entreprise est uniquement positif.
Tout à fait. Et pour les FRAG, c'est un grand oui. C'est en tout cas ce qui ressort de plusieurs dispositions de l'ESRS 1, qui, on vous le rappelle, détaille la philosophie des standards publiés à ce jour. Au paragraphe 43, il est écrit qu'une question de durabilité est matérielle dès lors que l'on constate des impacts positifs ou négatifs, qu'ils soient réels ou potentiels. Je m'explique, selon les FRAG, cela signifie qu'il peut y avoir un impact positif dès lors qu'il est réel ou potentiel.
Et comment déterminer si un impact est réel ou potentiel ?
Eh bien, toujours à l'aide de l'ESRS 1, au chapitre 3.4, qui définit, les FRAG le rappellent, les critères d'évaluation de la matérialité. Pour déterminer si une incidence en français, c'est-à-dire un impact en anglais, est positif et réel, il faut prendre en compte son ampleur et son étendue. À ces critères s'ajoute celui de la probabilité que l'impact ait lieu, ce qui vous donne un potentiel impact positif.
La question de la définition des impacts matériels interroge beaucoup, en matière sociale notamment, concernant les ressources pour gérer les impacts matériels.
Effectivement. La question posée était la suivante. Lorsqu'il est fait mention d'impact matériel au sein du standard dédié aux effectifs de l'entreprise, c'est-à-dire le SRS S1-4, cela signifie-t-il qu'il faut mesurer tous les impacts matériels ou uniquement ceux concernant le personnel de l'entreprise ? Pour les FRAG, il s'agit de la seconde réponse. Le standard ne concerne que le cas spécifique des impacts matériels sur la main-d'œuvre interne.
Jusqu'à présent, 24 réponses ont déjà été données. Comment s'annonce la suite ?
Les FRAG a confirmé la sortie prochaine d'une série d'explications, mais nous ne connaissons pas son calendrier. Il faudra donc encore rester attentif et patient pour décrypter le langage des ESRS.
Merci à toutes les trois pour ces nouvelles infos ESG. Pour les retrouver, elles figurent en lien actif dans la description de ce podcast. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois. D'ici là, excellente journée à tous.